original, soyez les bienvenus avec Agnès Hurstel. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Avec Marina Rollman. Bonjour Marina.
Bonjour Daniel.
Daniel Morin est là également, en effet.
Hey Marina, ma belle, ça va ?
Alexis Le Rossignol est là aussi.
Bonjour.
Et tout à l'heure, nous aurons Tanguy Passereau et notre invité est Thierry Marx. Que c'est bon tout ça, mais que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. J'espère que vous allez bien, que vous avez de bonnes vibrations. Agnès.
Ah, génial.
Tout à fait.
Oui, ça vibre.
Aussi. Ça vibre.
Que des bonnes vibrations.
C'est l'anniversaire de Sophie d'avant. Ouais.
Ah bon ?
Oh, d'accord. Bon anniversaire, Sophie.
Ouais, bon anniversaire, Sophie. 57 ans.
Mais c'est pas, ça se fait pas, ça. Ça, par contre, ça se fait pas, Daniel Morin. C'est pas, l'élégance veut
en
que...
En même temps, c'est pas comme si on pouvait pas le savoir.
Non, mais je sais pas, à partir de 25 ans, tu ne dis plus l'âge des filles, c'est fini.
Ah ben, on va pas parler de grand monde.
Yes.
Mais Daniel, le problème, c'est que vous détestez tout le monde. Je sais que vous me détestez, d'ailleurs, mais je vous manque pas un peu, franchement.
Alors, c'est vrai que je vous déteste, Nagui. C'est vrai, c'est clair. Néanmoins, au risque de vous surprendre, c'est vrai que vous me manquez un peu. J'ai toujours une fascination pour les salauds, les tyrans, les despotes, les maniaques. Et je trouve, au risque de vous flatter cette fois, je trouve que vous êtes la synthèse parfaite de tous ces profils, aussi infréquentables que dangereux que vicieux. Mais avec le confinement, j'ai découvert un homme encore plus vil que vous. Vous imaginez ma surprise ?
C'est possible ?
Ouais, carrément, je vais vous dire de qui il s'agit. Il s'agit de Ramadis, le roi de Thaïlande. Le gars, on a entendu parler de lui hein, quand il s'est confiné en Allemagne avec son harem de 20 jeunes filles et qu'il avait déposé juste avant Moumoun en Suisse. Total respect pour le king. Mais c'est pas tout. Il avait réuni avec lui toute une armée de serviteurs. Il leur faisait une vie d'enfer à base d'humiliation en public et de châtiment corporel. J'adore ce mec. Là, il me fait fort penser à vous. Et là, tout récemment, on suppose qu'il aurait fait disparaître une de ses maîtresses. Personne n'a revu la pauvre femme depuis qu'il l'a fait jeter en prison. Aucune trace. Nada. Que dalle. Rama est un génie. Et quand on sait, en plus, qu'en 2007, il a nommé au rang de maréchal en chef de l'armée de l'air son caniche, là, total respect pour le gars. Mais tout ça, c'est vrai en plus. C'est un génie. Alors, si, voilà Nagui. Alors, c'est clair, vos ondes négatives me manquent. Mais découvrir la vie de Ramadis pendant ce confinement fut un tel bonheur. Je vis plutôt bien votre absence du coup. En tout cas, je suis sûr et certain, quand je vous reverrai en chair et en os, monsieur
Guy. Qu'est-ce qui se passera ?
Tous les sentiments de jubilation morbide et malsaine que j'éprouve pour vous referont surface, j'en suis persuadé. Mais vraiment.
Ouais, je compte sur vous. Merci Daniel Morin. Ok, on y va. Allez, place aux affirmations. C'est Marina la première qui va y aller. Marina, on t'écoute.
Je suis championne suisse 2005 de 420.
De 420 ? Alors moi je connais 421. Ouais. C'est
oui.
C'est au dé ?
Non, c'est quoi, c'est la voile, le 420, le 420,
ah,
c'est
le
la voile.
4... Ah,
ouais,
d'accord,
le 420.
Ok. Le 420. Agnès, une question ?
Il y avait des
ok, mais si, des t'as pas, si t'as pas de question. Attends,
non,
si, non, ok, ok, ok.
Non,
Agnès.
J'avais le mot étang dans ma tête.
Non, non, si t'as pas de question.
Il y a beaucoup de lacs en Suisse.
Non, mais ce qui est formidable.
Il y a beaucoup de lacs en Suisse.
Elle veut, tu veux nous faire croire.
Il y a énormément de lacs en Suisse.
Tu veux nous faire croire.
Il y a énormément de vent.
Tu veux nous faire croire que tu as une question à poser à Marina Rollman. La seule question que tu trouves, c'est « Et il y avait de l'eau pour faire de la voile ?»
Okay. Bah,
laisse tomber.
Évidemment, elle est en Suisse.
Laisse tomber. Évidemment qu'il y a de l'eau. Alexis Le Rossignol.
C'était dans quelle ville que tu as fait ça ?
Mais vous êtes nuls.
Les championnats, c'était sur le Léman.
D'accord. C'est pour ça que tu connaissais un petit peu la voile l'autre jour, quand j'ai dit que j'ai traversé l'Atlantique à la voile.
Absolument. Absolument, j'en ai fait toute mon enfance, toute mon adolescence, j'étais en compétition tous les week-ends, enfin voilà.
Ah, il y a une ambulance qui vient chercher quelqu'un, Daniel Morin.
Mais c'est pour moi l'ambulance, salut les gars. J'aurais voulu savoir, c'est une régate ou il y avait plusieurs régates ?
Non, il y a plein de manches en fait, c'est sur deux jours et il y a plein de manches et c'est les meilleures de toutes les manches.
Tu avais quel âge ?
J'avais 16 ans.
Et ça se passe en plusieurs épreuves ou c'est juste une seule et unique épreuve ?
En fait, c'est des régates en triangle, pas en banane, mais en triangle. Et il y en a, je sais pas combien de manches, il y a peut-être 5 manches par jour sur 2 jours, un truc comme ça.
Pour toi, c'est quoi la manœuvre la plus difficile ?
L'empannage, si on a une bonne vitesse sous spi, c'est difficile de la garder bien, mais c'est le passage de bouée en fait, c'est là où tu te bats. Et la ligne de départ aussi.
Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que empanner?
Ouais, c'est quand tu vires.
Oui.
Non. Ouais, ok, d'accord. Bon, tout le monde a fait de la voile.
Ouais.
Bah, c'est le contraire de virer, quoi.
Tu t'es déjà pris la baume dans le front?
Oui, mais en même temps, moi j'étais barreuse, donc je suis un peu derrière, si tu veux. C'est plutôt mon équipière qui devait ne pas se la prendre.
Vous étiez deux sur le 420?
En 420, on est deux, ouais. Moi je suis barreuse et mon équipière Géraldine, ça a été mon équipière pendant 7 ans. On avait notre bateau ensemble, etc.
Est-ce qu'il s'agit de Géraldine Chaplin?
Non, pas du tout.
Quelle taille faisait le bateau?
Bah 420.
Ok, oh bah ça va, mais c'était un piège, j'essayais, ça n'a pas marché, d'accord. À votre avis, Agnès Surcelle, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Oh là là.
Le problème, c'est elle peut très bien faire de la voile sans être championne de Suisse.
Oui, voilà.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'elle a appelé quelqu'un hier pour avoir tout le vocabulaire, les phrases étaient... C'était magnifique, c'est faux.
Elle est trop coachée, d'accord. Alexis le Rossignol, navigateur dans l'éternel.
Je pense qu'elle fait de la voile et qu'elle s'y connaît, mais... Je pense pas qu'elle a été championne de Suisse.
Daniel Morin.
Bah écoute, moi je pense que c'est possible parce que c'est vrai qu'elle a des gros bras.
Bon, oh, n'importe quoi. Alors, je vous rappelle, moi je vais dire que c'est faux. Donc attends, Alexis t'as dit faux et Agnès aussi t'as dit faux. Donc une majorité disent que c'est faux.
C'est vrai, j'ai confiance en toi, Marina.
Non, tu nous as déjà arnaqué sur le ski, tu ne sais pas faire de vélo, je le rappelle, je vois pas pourquoi tu saurais faire de la voile. Donc.
Donc c'est faux, évidemment, j'en ai fait beaucoup, mais on était très mauvaises. On perdait toutes nos régates. On a gagné une fois une manche, juste parce qu'on était légère et qu'il n'y avait pas de vent. Et que du coup, on a dépassé les gens qui naviguaient bien. Mais non, j'en ai fait en compétition et j'ai passé ma vie en fin de classement toute mon adolescence.
Très bien. Alexis, c'est à toi. Alexis le Rossignol.
Oui, alors moi j'ai rencontré le Dalai Lama dans sa maison en Inde.
Oh, c'est classe ça.
Habite en Inde.
Mais comment tu calmes Marina Rollman sur des trucs comme ça? Elle a que.
En Inde.
Il habite où? Il habite où le Dalai Lama?
Bah, je sais pas.
Il habite à Leh. En fait, il a deux maisons. Il en a une à Dharamsala et il a une maison.
Et une à Berlin, à côté du Berghain.
Au Ladakh.
Moi, je sais que Marina a brunché avec lui dans son penthouse de New York, mais je savais pas pour le reste.
Il y a très peu de gens. Il a aussi une chambre au Château Marmont à l'année. Quand il a envie de rigoler, il est à Leh.
Marina Rollman.
Comment on a une visite? Comment t'as pu obtenir une visite? Faut s'inscrire sur une liste? Faut faire la queue? Qu'est-ce que?
En fait, j'ai pas obtenu une visite. C'est qu'à l'époque,
j'ai fait la queue pour le Dalai Lama, mais c'est n'importe quoi. Vous ne respectez rien.
Non. À l'époque, Yann Arthus Bertrand faisait son film Home.
Ouais.
Et il y a une équipe qui avait été envoyée en Inde. Et moi, je travaillais dans une agence de voyage réceptive. Et c'est nous qui avons été chargés de la logistique pour cette équipe de tournage qui devait rencontrer le Dalai Lama. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé avec l'équipe dans le salon du Dalai Lama dans la ville de Leh.
Ça a duré combien de temps, la rencontre?
Ça a duré 2 heures.
Oula, 2 heures, mais vous avez fait quoi? Vous avez fait un 421?
Non, mais c'était une interview fleuve dans laquelle lui parlait de l'humanité, de sa vision du monde, etc.
C'est vrai qu'il est tout le temps bourré?
Agnès Surcelle.
Est-ce que tu lui as fait des blagues? Est-ce qu'il t'a adoré? Est-ce que...
Non, mais j'ai rien dit. Moi, j'étais vraiment en observation, quoi.
Mais tu servais à quoi, en fait?
Bah, rien.
Parce qu'en fait, nous, on accompagnait dans les 4x4 qui avaient mené l'équipe jusqu'à Leh,
voilà.
Etc.
Donc,
et
je me suis
faufilé dans la pièce, quoi.
Ah, mais tu conduisais, tu as aidé la technique, tu t'es occupé du son, de la lumière, du maquillage.
Non, je faisais la logistique. Il y avait 2 jeeps et en fait, j'étais responsable. Je faisais le lien entre les chauffeurs des jeeps et l'équipe de tournage parce que moi, j'étais sur place depuis déjà quelques mois.
Ok. Marina Rollman?
Est-ce que c'est coquet chez le Dalai Lama?
Orange.
Des
géraniums. Ouais, c'est un peu kitsch, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fauteuils, c'était presque une salle de presse. Et après, le reste de la maison est assez simple, assez
c'est
kitsch.
Pas, c'est, il y a des moutons chez, devant. C'est pas chez lui, il adore les moutons. C'est pas chez lui, il est juste logé. Ah bon, c'est chez lui. Daniel Morin, dernière question.
Ouais, t'as piqué un truc quand t'étais là-bas?
Oh là. Mais c'est pas possible. Si on ça se fait pas, monsieur, non. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Marina Rollman? À moins que t'aies une question. Toi, tu penses quoi, Marina?
Mais je crois que c'est faux. Je crois pas que le Dalai Lama soit dans Home. Ou alors peut-être dans Home. Mais non, je crois pas qu'il soit dans Home.
Agnès Surcelle.
Je pense que c'est vrai.
Ouais, moi aussi, je pense que c'est vrai, Daniel Morin.
Ben non, en voyant Alexis, il a rappelé la sécurité.
Donc, il y a deux faux, deux vrais. T'as toutes tes chances d'en sortir vivant, Alexis. C'était vrai, c'était faux?
Eh ben, en fait, c'est Marina qui a raison. C'est un acte manqué, puisqu'il est tombé malade le jour du tournage.
Donc, il n'était pas dans Home.
Tout... Non, mais il était prévu qu'il y soit. Et en fait, tout a été annulé au moment où on arrivait à la porte de sa maison. Et c'est son frère qui nous a dit qu'il ne pourrait pas nous recevoir.
Oh là là, d'accord. Une question... Enfin, pardon, une affirmation d'Agnès Surcelle.
La femme qui valait 3 milliards, qu'est-ce qu'elle va nous dire?
J'ai fait une conférence sur le Zizi devant Thierry Marx et Christiane Taubira sur un porte-avions militaire.
Mais il y a trop d'infos, là. Il y a trop de trucs.
Oh là là.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
On peut s'arrêter là, on sait que c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment que c'est vrai.
Mais ouais, moi, je... Alors, attends, sur un... Alors, c'était à quelle occasion? Allons-y. Porte-avions militaire, pourquoi on fait une conférence sur le Zizi?
Un think tank sur la transmission entre le monde des entreprises et le monde des militaires et chacun et Thierry Marx venait parler de la transmission et de son métier. Christiane Taubira a parlé une heure, c'était extraordinaire et il y avait et moi j'ai fait une conférence sur la transmission père-fille. J'ai fait la conférence avec mon père sur comment on parle de sexualité à un enfant, à un ado.
D'accord, Marina Rollman.
Mais j'ai pas de questions parce qu'évidemment c'est vrai. Mais ok, c'était comment la préparation avec ton papa de cette conférence?
C'est gênant.
Très drôle. Pendant plusieurs semaines, je lui posais des questions et puis on a organisé un petit stand-up à deux et il m'a un peu volé la vedette.
Est-ce que tu penses que Thierry
Marx, 200 militaires rouge écarlate.
Est-ce que tu penses que Thierry Marx va se souvenir de cette conférence à laquelle il assistait?
Je pense qu'il était au premier rang assis juste à côté de moi, mais qu'il a préféré occulter ça de sa mémoire. Ou bien il va vous dire qu'il s'en souvient, je sais pas.
C'était quand? C'était en quelle année?
C'était le 8 mars l'an dernier, je crois. Enfin, le 8 mars, je suis pas sûre, mais l'an dernier, c'est sûr. Et on a dormi sur le porte-avions militaire.
Non, attends, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Tu vas pas faire une conférence sur le Zizi le jour de la journée de la femme, quand même?
Ben, au contraire, enfin.
Daniel
c'était
Morin.
En mars l'an dernier, en tout cas, c'est sûr.
D'accord.
Oui, Agnès, j'aurais voulu savoir, c'était pas trop dangereux de parler zizi en pleine mer devant 200 marins chauffés à blanc?
Alors, nous n'avons pas pu quitter le quai, donc nous étions à quai, n'est-ce pas? Et si, c'était très dangereux, c'était très drôle, c'était cocasse.
Oui. Est-ce que tu as eu du contact avec les marins après? Est-ce que vous avez dîné tous ensemble?
Ouais, c'est les gens les plus intéressants. On a tous dîné. On était, je sais pas, 700 dans ce truc. C'était les gens les plus intéressants à qui j'ai parlé. J'ai découvert un monde de fous. C'est des gens très jeunes, incroyables, qui s'engagent dans la marine. C'était fou. Fou.
Alexis Rossignol, une dernière question.
Si mes souvenirs sont bons, tu étais enceinte à cette époque-là, non?
Bah oui.
Non, car
tu avais déjà accouché.
9 mois. Je suis tombée enceinte en avril, Alexis.
Et c'est quel marin?
Le père.
Thierry Marx.
En fait, tu veux dire que Thierry Marx est le papa de ton enfant. Ok. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux qu'elle ait fait une conférence sur le Zizi devant Thierry Marx et Christiane Taubira, Marina Rollman?
C'est vrai, 1000%, évidemment.
Alexis Le Rossignol.
Non, je pense que c'est faux parce qu'elle en aurait fait une chronique à l'époque, je pense.
Daniel Morin?
Faux.
Moi aussi, je pense que c'est faux. Trois faux, une vraie. Agnès Surcelle.
C'est totalement vrai, tout est vrai.
Bravo Marina.
Et j'en ai parlé dans une chronique.
Mais non,
c'est juste que vous n'écoutiez pas. Voilà.
Mais si, ou alors t'avais pas cité Thierry Marx, je sais plus. Je suis perdu. On en reparlera dans quelques instants avec Thierry Marx, mais d'abord de la musique à 11h19.
France Inter, Nagui, la bande originale.
C'est Ayo avec Rosie Blue, il est 11h20 et vous êtes dans la bande originale. On est chacun chez soi, on est confiné, mais on est ensemble.
Everybody needs some love, and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew. Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir. How I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, everybody needs some love. So do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, get out of your closet and put on your purple shoes. I wish I knew that Rosie was depressed. She couldn't find love, cause her inside was a mess. In this crazy world we're living in, there's too many Rosie Blues. And if you take a moment, I'm quite sure you might. Everybody needs some love, and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, get out of your closet and put on your purple. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, everybody needs some love, and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, get out of your closet.
Rosie Blue, c'est Ayo dans la bande originale. À suivre Thierry Marx, notre invité. Mais d'abord, voici l'humeur d'Agnès Hurstel.
Ah oui.
Agnès, on me dit que tu ne sais plus trop qui tu es, où tu vas, ce qui guide tes pas, c'est quoi le problème ?
Dieu m'a donné la foi, Nagui. Mais la vérité, cette histoire d'attestation et de déplacement à maximum 100 km de chez moi, je peux pas. J'essaye, je ne comprends pas. On me dit 100 km à vol d'oiseau.
Ouais.
Mais à quelle vitesse? Et quel oiseau? La mouette, ça marche, par exemple? On me dit périmètre défini par un cercle d'un rayon de 100 km autour de ma résidence. Mais alors déjà, plus personne au monde ne dit résidence. Je veux dire, j'ai pas 75 ans dans mon living au Canet avec un cancer de la peau et la vue sur la Croisette. Je vis dans un immeuble, comme tout le monde. Et je ne peux pas le tracer, le cercle du rayon de l'hypoténuse, parce que je n'ai plus de compas depuis 2002. Et je n'ai plus de papier non plus depuis la chronique de Marina Rollman hier matin. Le monde d'après, Marina, je suis là. Je réceptionne mes deux 3 puzzles Amazon et j'arrive. On me dit, à vol d'oiseau, c'est une bonne nouvelle, madame. Parce que dans certains cas, une distance de 100 km à vol d'oiseau peut correspondre à 200 km tracés par la route. Mais certains cas, mais lesquels? Les cas graves? On dirait une mauvaise pièce de Beckett, sérieux. On me dit qu'en revanche, ça n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de mon département. Nagui, je vais pas te mentir. Oui. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si c'est Bucarest ou Budapest en Hongrie. Comment veux-tu que je sache ce que c'est que mon département ou ma région? Je connais à peine les limites de mon propre corps. Je ne touche pas les pieds quand je me baisse. Si je trace un trait entre tous mes grains de beauté, ça fait 108 km. Qu'est-ce que je dois faire? Une attestation sur l'honneur? Mais lol, mais ne me faites jamais confiance, les gens de la police. J'ai passé mon adolescence à falsifier toutes les signatures de tous mes CPE pour éviter la cantine et aller voler chez H&M. J'ai fait plus de canulars téléphoniques que de coups de fil à mes grands-mères. Attestation sur l'honneur? Non, non. Mon fils de 5 mois aujourd'hui est plus adulte que moi. Pour y voir plus clair, donc, je suis allée sur des blogs d'internautes fâchés, hein, des forums. C'est un peu le Pornhub, mais des grands timides comme moi. Et j'ai vu des êtres tout aussi perdus que moi. J'ai vu Glouglou52 qui écrit « J'habite Marseille. La zone de 100 km autour de ma résidence se trouve donc à moitié dans la flotte. Que faire ?» Et Glouglou, je compatis, mais je compatis, Glouglou. En plus, personne ne répond. Y a-t-il des flics en pleine mer qui vont l'arrêter en slip? Est-ce qu'il doit s'acheter un bateau? Personne ne lui répond. Il y a aussi Eric qui écrit, qui vit à Nancy, et il écrit « Où puis-je me déplacer en Lorraine ?» Écoute, déjà, Eric, sois plus précis. Quand tu dis Lorraine, est-ce que tu parles de ta région ou de ta femme? Parce que la réponse n'est pas la même. 100 km à vol d'oiseau en Lorraine, ça peut être très agréable ou très, 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 très grave. Bref, je suis perdue. Je suis une mouette. Non, c'est pas ça. Est-ce que Tchekhov, il pensait à notre attestation quand il a écrit La Mouette? C'est dingue, c'est pas, sûr, non. C'est un génie. Bon, je vais me recoucher et faire 100 km autour de mon lit. Bonne semaine, les amis.
Merci, Agnès.
Bravo.
Thierry Marx, qui a donc tout connu sur le zizi d'Agnès Hurstel, est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous souvenez-vous de ce moment de solitude sur un porte-avions avec des militaires et Agnès Hurstel faisant une conférence sur le zizi?
Oui, c'était surprenant, sur le BPC Tonnerre, en rade de Toulon, oui, je me souviens très très bien.
Ok, d'accord. Bah, donc, tout est vrai. On avait honte pour elle, on avait de la peine pour vous, mais apparemment c'est vrai et vous en êtes sorti indemne, tant mieux Thierry Marx. Première question déjà, allez-vous bien Thierry dans cette situation à la fois de pandémie dans le monde et aussi de crise économique pour les restaurateurs et les bars?
Ben, si on parle de ma santé, je vous remercie, je vais bien. Par contre, si on parle de business, je suis à l'arrêt comme toute la profession, et ça de façon planétaire. Donc c'est vrai que ça a des petits courants d'anxiété par moment. On essaye de regarder un peu plus loin parce que il nous faut quand même une date pour réenclencher la machine.
Alors justement, pour réenclencher la machine, comme vous dites, on entend parler éventuellement du mois de juin. On ne sait pas trop si c'est le début, le milieu ou la fin, et en fonction de quel département, s'ils sont verts ou s'ils sont rouges. Combien faut-il de temps d'ailleurs à un restaurateur pour démarrer entre guillemets le resto? Ça se démarre pas du jour au lendemain quand même, j'imagine. Il y a des préparatifs, il y a le personnel à nouveau réunir. Comment ça se passe? Combien de temps vous faut-il?
Alors, moi je compte une bonne semaine. Pardon, une bonne semaine, voire plus, en fonction de l'établissement que vous dirigez. Un, d'accord. Il faut reprocesser un certain nombre de choses, refaire les process sanitaires avec les collaborateurs, retrouver de la cohésion et ensuite réenclencher l'accueil client qui se fera de façon évidemment beaucoup plus planifiée. Donc le pourquoi de la date, il est là. C'est-à-dire que oui, mi-juin, très bien, mais il faut vraiment nous aider là-dessus parce que on n'a pas de point sur l'horizon. Et effectivement, on n'ose pas réenclencher un certain nombre de choses pour travailler à perte, parce que le drame, c'est que pour certains d'entre nous, nous allons travailler à perte sur 3 ou 4 mois à venir.
Alors, au-delà des règles sanitaires qui peuvent être prescrites pour ou ordonnées pour un restaurant, vous avez poussé un coup de gueule dans l'Obs. Vous avez dit que le monde était comme une locomotive qui s'arrêtait entre deux gares et que la crise que nous traversions en ce moment et qui nous privait de toute forme de liberté était une leçon qui devait nous permettre de changer.
Bah oui, j'ai écouté mon ami Gilles Boeuf qui disait c'est vrai qu'on est un petit peu incorrigible nous les humains et qu'on a toujours cette tendance à croire que rien n'est de notre faute, et je crois que là, on est quand même partie prenante sur ce sujet. Donc je pense qu'ici, si on doit voir le monde de demain, on sait très bien que l'être humain se modifie pas comme ça, mais d'essayer de faire autrement et de faire un véritable fond de transition pour essayer d'avoir un impact social et un impact environnemental qui soit plus cohérent dans le monde de l'entreprise et dans le monde des investissements. Parce que oui, l'argent, on va en trouver pour retrouver nos entreprises. Bien sûr que la croissance va revenir. On voit déjà qu'en Chine, c'est le cas. Mais pour aller où ? C'est-à-dire que moi, le train, j'ai pris cette métaphore du train arrêté en rase campagne. On sait qu'il va redémarrer, mais le projet, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est pour recommencer les mêmes spéculations. Il y a un fort danger pour que la prochaine crise, elle soit pas pandémique au niveau d'un virus, elle soit plus économique, mais qu'elle soit peut-être climatique. Donc, on veut aller où ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette planète où il y aura quasiment 10 milliards d'individus ?
Alors, vous êtes à la tête de 3 restaurants, le Sur-Mesure, le Camélia, le Cake Shop, je ne m'abuse. Et puis aussi, vous dirigez des écoles pour former des jeunes. On a déjà parlé ensemble à ce micro dans la bande originale. Il y a 4 écoles maintenant, c'est ça ?
Il y a 9 écoles maintenant.
9, pardon. D'accord. 9.
Il y a 9 écoles,
Et alors que se passe-t-il aussi ? Est-ce que là aussi elles sont arrêtées ou est-ce que comme les écoles entre guillemets reprennent, mais je pense que là elles rentrent dans la catégorie plutôt de d'écoles professionnelles, elles sont suspendues ? Comment ça se passe pour les élèves ?
Non, elles ont réouvert. D'ailleurs, je remercie les équipes Philippe et Véronique Carillon qui ont réouvert les écoles. Donc les 9 écoles aujourd'hui redémarrent. Il n'y a plus de restaurants d'application, mais on fait de la vente à emporter. Donc ça a redémarré parce qu'il y avait aussi là un besoin, les gens avaient besoin de commencer ou de finir leur formation, parce que cette situation où on est hypnotisé par ce virus, et on peut le comprendre vu sa dangerosité, eh bien il faut quand même entrevoir demain et un épanouissement nouveau. Donc il fallait absolument reprendre aussi l'ouverture de ces écoles pour recommencer les formations professionnelles pour des publics qui sont des fois très éloignés de l'emploi ou très éloignés d'un certain nombre de choses ou en fragilité sociale.
D'accord. Alors, la question que l'on pose tous les matins à nos invités concerne ce que ce confinement a apporté ou ce qu'il a changé chez vous. 55 jours, 2 mois à être enfermé, Thierry Marx, qu'est-ce qui humainement a changé en vous ?
Changé, pas grand-chose, mais ce que ça a renforcé, c'est de l'idée, pour jusqu'à temps que je souffle la veilleuse, d'avoir un impact social et un impact environnemental dans mes actions, qu'elles soient professionnelles ou autres. Je trouve que c'est extrêmement épanouissant de faire en sorte que cette planète aille mieux au travers de la gastronomie. Et je trouve que c'est un combat entre guillemets, mais en tout cas c'est un chemin que je me suis donné avec mes collègues pour aller vers quelque chose qu'on considère être mieux.
Alors, qu'allez-vous changer à ce moment-là, à partir de maintenant ?
Ce que je vais changer, c'est de ne pas changer vis-à-vis de cette volonté de vouloir avoir cet impact social et cet impact environnemental. Vraiment, je veux avoir un peu plus de détermination que j'ai pu en avoir avant le Covid.
Très bien, on va évoquer quelques dates de votre carrière en musique avec les titres que vous écoutiez, par exemple en 76.
There ain't no grave can hold my body down.
Johnny Cash.
There ain't no grave can hold my body down.
Qu'est-ce que cette musique évoque ? Quelle image avez-vous ? On est en 76.
Beaucoup de choses. Je pense au rockabilly, je pense à ce qu'écoutait mon père. Et puis un jour, bizarrement, je tombe sur cette voix, Street of Laredo, et je trouve que cette voix, elle vous ensorcelle, elle vous prend, elle vous raconte, elle vous fait traverser les époques. Et là, bon, cette chanson, c'est plutôt la fin de sa vie, et on comprend au travers des paroles, mais la voix de Johnny Cash fait partie de ces voix qui sont indestructibles, qui restent en vous et qui vous fait en permanence évoluer. Donc voilà, moi, pour moi c'était ça, et c'était aussi l'envie de plus loin, l'envie de sortir du quartier et d'aller au-delà des murs de la cité. Et c'est vrai que ces voix qui étaient à consonance américaine, bien entendu, me disaient, la vie n'est pas là, la vie est ailleurs.
Alors, vous entrez justement dans, chez les Compagnons du Devoir. Quelles sont les valeurs essentielles des Compagnons du Devoir ?
Oh, elles sont sur la parole donnée. Elles sont sur le faire pour apprendre. Moi, qui étais en échec scolaire sur apprendre pour faire avec l'école, je ne m'en sortais pas avec ce collège. Là, ce sont des adultes qui m'ont dit, tu sais, nous, on est la noblesse du monde ouvrier et on doit être dans l'excellence. Il faut faire pour apprendre. Et j'ai appris des petites choses. Et c'est ces petites choses aujourd'hui qui m'ont amené à avoir rigueur, engagement, régularité et de ne pas me croire attaché ou assigné à une extraction sociale. Donc, il compte pour moi dans ma vie comme un cadre éducationnel extrêmement fort qui est encore un des piliers de ma vie.
Vous vouliez initialement être plutôt dans la pâtisserie, il y a eu donc toute cette évolution et on arrive dans les années 80, 86 précisément où vous écoutiez. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. Without a woman or a girl. James Brown, c'est un monde d'hommes. Pourquoi ce titre en 86 ?
James Brown, c'est vraiment la voix là aussi qui m'a fasciné très tôt. En classe de 6e, j'étais assis à côté d'un copain qui s'appelait Père Maille et son frère était saxophoniste, était passionné de James Brown et m'avait offert le premier vinyle de Sex Machine. Et cette voix m'est restée bien jour, elle est revenue avec ce titre. Et je me suis souvenu de cette époque du 140 000 montants, de l'école Pelleport où on écoutait James Brown et le Pat Def, enfin tout ce qui peut représenter James Brown et en même temps ce côté mélodieux. Et puis me souvenir aussi que je détestais les comédies musicales et d'avoir revu parce que j'ai une copine m'avait emmené dans une mauvaise, enfin une très bonne pour certains et une très mauvaise pour moi comédie musicale. J'avais redécouvert James Brown dans Blues Brothers et je trouve qu'il avait fait un redémarrage là dans ce film qui était extraordinaire. Donc tout ça là aussi il y a quelqu'un qui sait sortir de son extraction sociale,
faut pas oublier
comme un chien pour en sortir.
Ce qui sont exactement les valeurs de votre propre vie et ce que vous faites en tendant la main à tous ces élèves des 9 écoles de formation professionnelle. On a passé rapidement la période où vous avez été casque bleu pendant la guerre du Liban, mercenaire avec les phalanges chrétiennes. Vous revenez en France et là, vous n'avez aucun repère pour travailler. Vous passez un CAP de cuisine dans une école en candidat libre et on vous dit, ouais, le diplôme c'est bien, mais ça ne suffit pas.
Ouais, c'est vrai, c'est complètement ça, et c'est vrai que ça suffit pas. Il faut encore là apprendre, et puis surtout en France, de pouvoir croiser la route d'un grand, de quelqu'un qui va vous permettre de vous construire dans sa cuisine, et ensuite qui va vous émanciper pour que vous fassiez votre propre cuisine. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser la route de Claude Delisle, de Joël Robuchon, de grands personnages comme ça, et d'entrevoir Jacques Maximin, Alain Chapelle, des gens et Bernard Loiseau bien sûr, parce que c'est un peu lui qui m'a, avec ses mots, qui m'a mis le pied à l'étrier, et je me suis dit, je veux devenir comme ça. J'aimerais avoir une philosophie de travail, un geste, une écriture de cuisine qui sera une écriture que j'accepterais de porter pour les autres. Et c'est cette grande chance que ce chef, qui était meilleur ouvrier de France, je me souviens, Monsieur Genoux, qui m'avait dit, tu sais, les diplômes, c'est bien, mais d'avoir travaillé avec quelqu'un, ce sera encore mieux. Et c'est vrai que d'être adoubé dans cette profession, eh bien, ça fait partie un petit peu de la règle. Et c'est un très, très, très bon souvenir. J'aime repenser à ce CAP passé à la hâte, rue Béliard.
Vous avez choisi James Brown, It's a Man's World. Est-ce qu'on peut dire ça aussi de la cuisine ? C'est un monde d'hommes, même si on en avait parlé avec Hélène Darroze, il y a Anne-Sophie Pic. Évidemment, il y a beaucoup, mais peut-être pas assez d'ailleurs, de femmes dans ce métier.
Ça fait deux.
Oui, c'est ça. Ouais, mais enfin, je ne les connais pas toutes non plus. Mais est-ce que c'est vraiment un milieu de mecs, un milieu macho, la cuisine ?
Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé en cuisine, et pour mes aînés, c'est la même chose, nous avions peu de femmes en cuisine. Et tristement, il y en avait eu des célèbres, hein, faut pas oublier la mère Brasier, enfin toutes ces grandes dames de la gastronomie, mais Mais c'est vrai qu'il y avait peu de femmes, c'était un métier où on chauffait la figure sur le fourneau, là, c'était des métiers épuisants, avec une coupure l'après-midi, enfin des... Vraiment, c'était extrêmement difficile. D'ailleurs, les hommes chefs sortent tout souvent d'une condition sociale assez difficile. Il faut s'accrocher. C'est dur, c'est confiné. Là, pour le coup, une cuisine, c'est petit. On était nombreux. Il fallait jouer un petit peu des coudes. Donc, ouais. C'est vrai que peu de femmes. Mais moi, j'ai connu cette cuisine de monde d'homme à homme, je dirais, et d'une transmission d'homme à homme. Pas oublier que dans les années 80-90, il n'y avait pas Google et on n'avait pas le droit de faucher les recettes, donc il fallait discrètement les copier, les dessiner pour essayer de se les approprier, regarder une main qui émince, une main qui lève un filet de sol, une main qui cuit avec le bon geste et à la bonne température. Moi, c'est tout ce que j'ai comme souvenir, et effectivement, c'est un monde, j'ai connu ce monde d'hommes, et je suis très heureux aujourd'hui que les femmes s'imposent, et à juste titre d'ailleurs, dans ce métier, ce qui rétablit un équilibre très intéressant.
Alors justement, une femme, Agnès Hurstel, avait une question sur la création des recettes, Agnès.
Ouais. Non, je voulais savoir si pendant ce confinement, est-ce que vu qu'on a tous fait la cuisine pendant 2 mois, est-ce que vous avez inventé des nouvelles choses ou au contraire, est-ce que vous n'en pouvez plus et vous faites du Picard, je sais pas.
Non, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de me confiner dans mon atelier. Donc j'ai énormément de repères dans cet atelier pour faire des essais. On a été approvisionné quand même pour continuer à faire des essais. Et la magie des essais, c'est d'abord de se débarrasser du poids de la technique, ça, qui est absolument nécessaire, de nos bases, de nos bases professionnelles, et puis après d'avoir le droit de se tromper. Et dans cet atelier, on se trompe beaucoup, on fait des essais, on fait des décoctions, on essaie de trouver de nouvelles idées pour de nouvelles émotions, parce que on révolutionne pas la cuisine, elle évolue en fonction de son temps, et on trouve des saveurs, des mélanges, on fait des hybridations, comme on dit, et on arrive à trouver de nouvelles formes, de nouvelles approches pour créer de l'émotion. Parce que la cuisine, c'est quand même donner de la mémoire à de l'éphémère. On sait tous comment ça finit. Donc, il faut vraiment marquer l'esprit quand on crée un plat. Et ces moments de réflexion, même entre avec quelques collaborateurs, de pouvoir continuer à chercher, c'est un moment extrêmement fort. Donc il y a de nouvelles créations qui vont sortir dès qu'on nous aura ouvert le portail.
Permis d'ouvrir. Ouais. Daniel Morin.
Oui, Thierry Marx, vous êtes un homme qui est plein de projets, qui était au départ de beaucoup d'initiatives. Vous voyez quand même assez loin, vous avez l'air d'être sage. Je me demande si c'est la pratique du tai chi chuan ou si c'est naturel chez vous. Emmanuel Macron, que vous avez soutenu en 2017, ne vous avez jamais proposé quelque chose, un projet ?
Non, jamais. Il a été bien inspiré. Je n'ai pas cette compétence. Mais j'essaie de rassembler. Je pense que peu importe qui... Enfin, si, les gens qui nous gouvernent, mais je pense qu'on est dans des siècles où il faut trouver des solutions, et rapidement, et de façon durable. Donc c'est vrai que j'ai soutenu cette candidature d'Emmanuel Macron, parce que ça me semblait être une réponse qu'il fallait à ce moment-là. Maintenant, je l'assume parfaitement. Et c'est vrai que je considère que ce monde qui est volatile, incertain et par moments extrêmement complexe, eh bien, il faut regarder plus loin. Et quand je parle de ce fonds de transition, j'espère qu'il le lira, parce que trouver de l'argent pour se sortir de l'ornière maintenant et réparer par moments l'irréparable, je pense qu'il faut projeter un peu plus loin pour cette planète, pour la France déjà, faire une France forte. Il ne faut pas oublier la France de la ruralité qui souffre autant que la France des quartiers, de faire une France forte, un peu moins verticale, avec beaucoup d'horizontalité, faire des régions qui soient solides pour qu'on affronte une mondialisation qui est, à mon avis, quand même assez inévitable.
Mais si vous voulez créer un fonds là, avec lui, là, c'est le moment, il est chaud là, avec Angela Merkel, ils sont en train de créer un fonds de 500 milliards.
Alors justement, ça c'est pour la santé des 500 milliards, mais on va parler de ce fonds de transition. Thierry Marx, votre idée c'est de dire 1 euro public pour chaque euro privé, c'est ça ?
Oui, je crois à un mariage public-privé qui serait un mariage de bon sens, et qu'à chaque fois que nous investissions dans quelque chose, nous en mesurions l'impact social et l'impact environnemental. Ce qui est absolument nécessaire quand on pense à 10 milliards d'individus sur cette planète. Donc si on ne raisonne pas comme ça, ça va être trop compliqué. Donc ce fonds de transition, il peut naître maintenant, parce qu'on a une date historique, ça ne nous est jamais arrivé. On a fait peuple parce que on s'est dit qu'on peut tous y passer, qu'on soit riche, pauvre, on peut être impacté par ce coronavirus, et de se dire que de profiter de ce tunnel de la peur qui nous rassemble pour aller essayer d'entrevoir un demain plus juste. On sait très bien que c'est facile à dire, pas forcément facile à faire, que les investissements ne sont pas aussi simples que cela, mais d'être en capacité avec ce fonds de transition d'avoir un raisonnement à impact social et impact environnemental. Si je ne prends que le métier de la gastronomie, vous avez les métiers de l'agriculture qui sont liés à la gastronomie. Quelle gastronomie pour demain, mais quelle agriculture pour demain, quelle consommation pour demain. C'est pour ça que je pense très sincèrement que pour s'en sortir, il faut aussi penser à un fonds de transition économique qui nous amènera vers 2050 de façon plus saine.
Qui servirait donc à financer les PME, les artisans, les commerçants, tous ceux qui ont été, qui souffrent économiquement aussi de cette pandémie mondiale. L'idée donc, pour vous résumer, c'est un fonds d'investissement, c'est donc qui doit non seulement récupérer l'argent, voire peut-être en gagner, si on va au bout du raisonnement d'un fonds d'investissement, en disant que les entreprises privées, le privé en tout cas, met un euro et donc l'État en met lui aussi un. On est d'accord, ça ferait deux.
Exactement.
Et ça doit rentabiliser, c'est-à-dire que c'est un investissement. L'idée, ça serait quoi? Que ce fonds rapporte? Parce que il faudrait réussir à faire rimer, j'ai envie de dire, économique avec écologique aussi.
Mais bien sûr, tout le monde, c'est pas moi qui l'ai écrit, que le capitalisme était efficace, mais il n'était pas juste, il répartit pas bien la richesse. Donc il faut changer ce paramètre-là. Donc faire du revenu, faire du profit, c'est pas indécent. S'il est bien redistribué et si on en mesure l'impact social et l'impact environnemental. Sinon, on va voir revenir les bons vieux snipers qui vont revenir. Donc je pense que dans ce fonds de transition, c'est là où le mot est intéressant, dans transition, c'est-à-dire que réparer l'irréparable de choses qui étaient déjà en très grande difficulté en amont du Covid n'est peut-être pas forcément utile, mais comment on aide ces entreprises en grande difficulté aujourd'hui à faire cette transition. Et puis avec des remboursements qui ne soient pas des paybacks à 3 ans ou à 5 ans, mais des paybacks à 8, 10, 15
c'est
ans.
Ça.
Quand vous voulez investir dans l'agriculture,
pour laisser le temps à la croissance et de revenir. Marina Rollman sur la... La tribune.
Oui, toujours sur la tribune et sur cette idée d'un fonds de relance. Vous parlez de la ruralité, des territoires. Est-ce que vous pensez que l'avenir de tout ça, c'est aussi peut-être de décentraliser un peu la France et la croissance?
Oui, complètement. C'est-à-dire que décentraliser, on l'a fait sur le papier. Pardon. Mais maintenant, dans les faits, on ne voit pas vraiment. Ma maman habite dans un village, il n'y a plus rien, mais absolument plus rien. Donc, il faut redonner son sens à la ruralité, réinvestir. C'est pour ça qu'avec le groupe SOS, on pense à ces 1000 bistrots en milieu rural, bistrots, épiceries, tout ce que vous voulez, pour recréer du lien social et puis recréer des services. Donc une horizontalité dans le milieu rural pour reprendre conscience que ces terroirs et ces territoires ont une importance pour faire une France forte, des régions fortes. C'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, quand on fait 20 km pour aller acheter du pain ou espérer avoir un médecin à plus de 30 km qui accepte de vous prendre, pour des gens qui sont en ruralité, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut aussi travailler sur ces investissements.
Mais alors, d'accord. Est-ce que ça veut dire, pardon Thierry Marx, est-ce que ça veut dire que vous allez vous interdire, par exemple, de cuisiner avec le moindre produit qui ne serait pas local?
Mais bien sûr, c'est déjà fait. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il y avait en amont du Covid va s'accélérer après le Covid. Donc le locavore, le haute qualité environnementale, de consommer à moins de 250 km de son lieu de transformation est une évidence pour beaucoup, beaucoup de chefs de ma profession qui ont déjà beaucoup impliqué dedans, y compris pour la grande distribution qui a accéléré ce processus pendant le phénomène Covid. Donc là, il y a des choses qui étaient déjà vraiment, qui s'amorçaient, dont on voyait des signaux faibles s'enclencher en amont du Covid. Ce confinement a eu cela de bon d'être un révélateur de tout ce qu'il fallait mettre en place là, maintenant, à la sortie du Covid. Donc ça veut dire que il faut investir sur cette transition. Si on ne le fait pas, on va passer à côté de cette date historique que nous avons tous vécue dans la douleur, et pour certains dans une très grande douleur, mais il faut penser à cette transition économique et écologique. Mais je dirais d'abord écologique et économique.
Sur le secteur de la restauration en particulier, c'est très compliqué déjà de faire marcher un restaurant, il me semble. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué de faire le pari de le faire fonctionner en dehors d'une grande ville et donc d'essayer comme ça de décentraliser aussi l'accès à la restauration?
Vous avez parfaitement raison. Ceci dit, c'est-à-dire qu'en ruralité, vous pouvez aussi faire des propositions qui sont un petit peu différentes. Vous savez, on n'a pas inventé grand-chose. Au 19e siècle, on avait déjà l'auberge, la halte de campagne qui était multifonction. Aujourd'hui, on a on a besoin de se retrouver en ruralité et qu'un restaurant peut être aussi un lieu d'épicerie, de connexion, etc. Donc on peut aussi digitaliser ce lieu pour que les gens qui vivent en ruralité n'aient pas besoin de faire 10 km pour avoir une connexion Internet. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que le mythe du restaurant à l'ancienne, ben peut-être qu'il a un petit peu vécu, mais ce mythe, on peut le faire évoluer. Un restaurant peut être une boulangerie aussi.
Bien sûr. Ouais, ou faire, ses confitures, faire ses confitures et des ventes à emporter. Bien sûr. Merci mille fois, Thierry Marx, d'avoir pris le temps de nous parler. On est de tout cœur, évidemment, avec tous les restaurateurs, les troquets, les bistrots, ceux qui donnent la vie, finalement, à notre pays. On espère que tout ça va reprendre et redémarrer dans les meilleures conditions. Je rappelle aussi, j'ai oublié de le dire, pardon, qu'en novembre, vous aviez publié chez Kero le dictionnaire de ma vie, absolument passionnante. Votre vie est passionnante, ce dictionnaire. Merci Thierry Marx, portez-vous bien.
Merci,
en tout cas.
Portez-vous bien.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Un moment de bonheur.
C'est moi ?
Non, c'est Patti Smith. Écoute ça.
Je suis Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. We'll be right back.
Oh, comme il a tout
ça donne envie de crier, de hurler, la joie, le bonheur. Patti Smith, Gloria, 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 yeah, yeah.
On dirait un mauvais porno.
J'adore, mais non, un peu de respect. Gloria, G.L.R.Y. Ah oui, le titre des Them revu magistralement par Patti Smith dans une journée ensoleillée. Ça fait du bien autant que du Tanguy Pastureau, messieurs dames. Tanguy, vous allez nous parler de l'entreprise Uber.
Oui, Uber, souvenez-vous, il y a longtemps, c'était le prénom de votre oncle un peu lourd qui, dans un mariage, sortait des blagues parfois pas racistes, ce qui fait que le seul côté un peu sulfureux qui avait assisté à un mariage tombait à l'eau. Puis, en 2011, la société Uber arrive en France. Alors, le concept est simple comme bonjour, je te fais un bisou de loin. C'est simple comme bonjour, mais avec la distanciation sociale. C'est du VTC. En gros, c'est comme un taxi. Dans la voiture, on écoute RMC. Moi, à un moment, j'en prenais pas mal. Sur un an, j'ai plus entendu Jean-Jacques Bourdin que ma conjointe. Je m'étais tellement habitué à lui qu'une nuit, à 23h, je me suis présenté chez lui. Il m'a ouvert, il était nu. Derrière, j'ai vu Daniel Morin en peignoir. J'ai dit, ah bon, oui. Daniel, toi aussi, tu prends beaucoup les VTC? Il m'a répondu, pas du tout, moi, c'est par amour que je suis là. Bref. Alors, Uber, au tout départ, c'était Hollywood. Hein, le chauffeur vous ouvrait la porte, costard cravate, la bouteille d'eau à disposition. Vous disiez, j'ai mal au dos. Hop, un kiné sortait du coffre et vous tripotait. Puis, très vite, ça s'est relâché. Hein, ça a fait comme la vie de couple, Uber. Aujourd'hui, les mecs conduisent en claquette avec un t-shirt Armani qui les boudine et ils disent du mal de Macron. Alors moi, je leur réponds, attendez, je suis à France Inter, si je veux entendre du mal de Macron, j'écoute l'antenne. Mais je dois avouer que ça fait pas mal de mois que je ne prends plus Uber. Hein, marre de voir des gens trimer 12 heures pour ramasser 14 euros. Et pourtant, je suis libéral. Hein. Nicolas Dose à côté de moi, c'est le sous-commandant Marcos qui chanterait Bella Ciao. Donc, fini Uber, je fais du vélo, juste pour qu'Anne Hidalgo me remarque et me file un HLM de la ville de Paris. Parfois, je tourne à vélo toute la journée devant la mairie. Mais Uber, là, est revenu dans l'actu. Il y a quelques jours, figurez-vous que la boîte a viré 3500 personnes dans le monde, hein, au service client. Ce sont ces gens qui, quelle que soit la société, répondent au 30e appel. Un jour, elle décroche et vous donne un autre numéro à appeler pour le problème spécifique vous concernant. Hein, Michel Piccoli, qui est décédé hier, ça faisait 8 ans qu'il essayait de joindre le service client pour Safetybox et avant France Télécom. Hein, ça le faisait tenir, sinon en 87, c'était fini. Donc, la semaine dernière, Uber a demandé aux 3500 salariés de se connecter sur Zoom, hein, ce truc de réunion par webcam où tout le monde est moche. Là apparaît la responsable qui déclare « la crise sanitaire nous plombe, on est en train de suivre la même courbe que la carrière de Laurie, pour vous tous, ça va s'arrêter là hein, ». Il manquait juste Denis Brognard qui symboliquement éteignait une torche, et c'était Koh-Lanta. La bosse en live donc dit à 3500 personnes qu'elles sont au chômage, ça a duré 3 minutes, elle avait semblant d'être un peu émue, hein, la voix chevrotante, mais en fait elle devait penser que pendant ce temps, elle risquait de rater le rappel du service client Orange sollicité en 2014. En 3 minutes sur Zoom, on envoie 3500 personnes à Pôle emploi. Il est pas beau, le monde d'après, celui où on prend soin les uns des autres, wow. Et où on se roule dans des prés fleuris ou dans des burritos géants pour les Mexicains. Ça donne plus envie de gerber qu'une vidéo où Cédric Villani secourait ses cheveux au-dessus d'une nappe blanche et on verrait les bestioles sautiller. Alors j'espère juste une chose, c'est que quand Uber ira mieux, s'ils embauchent, ça se fera en 3 minutes sur Zoom, sans CV ni entretien, juste bienvenue, puis fin de réunion. Quelle boîte atroce. Je veux dire, on est quand même mieux à vélo.
Merci Tanguy Pastureau, bravo.
Bravo.
Ah bah oui, je sais pas pourquoi, mais bravo, ils veulent pas partir. Bon ok, mais bravo. Des petits bravo chacun chez soi. Merci Agnès Hurstel, merci Marina Rollman, merci Alexis Le Rossignol, merci Tanguy Pastureau. Pardon Daniel, mais pas de désolé, donc désolé.